Alors, faut comprendre qu'ils étaient là avant déjà. Ils étaient là depuis très longtemps. Ça, j'ai dit hier aussi dans la discussion. L'extrême droite, en tout cas vue de France, hein, était mal invitée ou mal accueillie sur les plateaux de télévision. Leur rhétorique était dénoncée. On disait ils sont racistes, machin. Donc eux sont partis dans une rhétorique à base de on peut plus rien dire. Donc sur Internet, on pouvait dire tout ce qu'on ne pouvait pas dire à la télévision. Donc très tôt, ils ont investi les réseaux, toute forme de réseau. Et ils l'ont théorisé. C'est-à-dire qu'ils avaient un train d'avance sur la gauche, mais en plus, ils l'ont théorisé assez vite. Et dans des mouvements en France comme au Front National ou à Égalité et Réconciliation, qui est le parti d'Alain Soral, il y a des formations spécifiques sur l'utilisation des réseaux. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils ne font pas n'importe quoi. Comme par exemple, ils leur apprennent à spammer des messages de haine ordinaire, hein. Dites ce que vous voulez, ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous allez dire, c'est le fait que vous soyez présent là tout le temps, par exemple sur les grands sites d'information généralistes. Le Monde, Le Point, L'Express, alors plutôt ceux de droite évidemment, mais Le Monde aussi, et d'aller dans la section commentaires sous les articles, sur tous les articles qui vont parler plus ou moins des migrants, des droits des femmes, machin, pour aller faire générer ce bruit de fond. Et on a l'impression, du coup, quand on lit l'article et qu'on regarde les commentaires, on se dit, ah, il n'y a que des fachos. Et c'est vrai, il n'y a que des fachos, parce que les gens normaux, ils lisent l'article et ils ferment le truc. Mais eux passent leur journée à faire ça. Et c'est considéré comme une activité militante. C'est-à-dire, ils l'ont théorisé. C'est vraiment, non, cet après-midi, je fais du réseau sociaux, je fais des réseaux sociaux pour Soral. Voilà, et ils font ça. Donc ça fonctionne assez, parce que l'idée, c'est une idée d'envahissement, quoi, de débordement. Et de présence, d'omniprésence, on a l'impression du coup d'être saturé de ces messages. Et il y a un autre parti qui est assez marrant, qui avait utilisé cette stratégie, c'était l'UPR. L'UPR, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, le candidat c'était François Asselineau en France, il était candidat à la présidentielle. On le regardait sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de YouTube, par exemple. Tous les commentaires, enfin, je veux dire, à chaque fois, il y avait un mec de l'UPR qui venait dire « Connaissez-vous l'UPR? Connaissez-vous François Asselineau? Venez regarder cette conférence de François Asselineau. » Alors François Asselineau, c'est un vieil énarque déclassé, qui est souverainiste pour la sortie de l'Union européenne, etc. Son slogan, c'était le Frexit. Alors, donc nous, on regardait ça depuis Internet. Et on se disait, mais ils sont partout, quoi. Et ils étaient vraiment partout. Et ils étaient là tout le temps. Sur toutes les vidéos qui parlaient plus ou moins de politique. Et moi, je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de politique. Donc ils étaient là, je les voyais toutes les semaines. Ils venaient dire, oui, mais Usul, est-ce que tu connais l'UPR? Usul, renseigne-toi sur François Asselineau, le petit parti. Tu connais pas l'UPR, le petit parti qui monte malgré le silence des médias? Alors évidemment, il y avait un silence des médias, hein, parce qu'on s'en fout de François Asselineau, en vrai. Et ça a été prouvé après. Il a fait 1%. Mais on avait l'impression qu'il était partout. Cette stratégie a véritablement fonctionné. On a vraiment eu l'impression que, mais merde, ça monte l'UPR. Alors eux disaient que ça monte et ils étaient voilà. Donc ça fonctionne pour créer une ambiance quoi. Et nous, on a été trompés là-dedans. On a eu l'impression qu'en effet ils étaient pleins. Et quand on testait leur force électorale, bah, il y avait rien. Donc une espèce de voilà la grenouille qui gonfle quoi pour se faire aussi gros que le bœuf. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, pourquoi le font-ils? Parce qu'ils ont du mal à déployer leur rhétorique dans les médias traditionnels, déjà, premièrement. Et ensuite, je parlais des militants professionnels, des militants, on va dire, qui sont des militants appliqués et impliqués, qui ont leur carte, par exemple, à égalité et réconciliation. C'est une chose. Ceux-là, en effet, ils sont formés, ils ont des stages, très bien, ils font ça. Mais ça ne fonctionnerait pas si... il n'y avait pas tous ces militants qui sont uniquement des militants devant leur PC. Des gens qui n'ont de carte nulle part et qui vont amplifier aussi ce bruit de fond. Par exemple, oui, chez nous, l'exemple, c'est jeuxvideo.com. Alors, jeuxvideo.com, il y a un forum, en fait. Et ce forum-là est devenu un lieu de... Alors, eux diront de liberté d'expression. Donc c'est devenu un sacré fourre-tout où l'extrême droite est en force, où elle essaie de recycler notamment tous ces mêmes Pépé de Frog, etc. Et ils sont utilisés là-bas, mais ils ont créé leur propre même, avec Visitas, et leur propre langage, leurs propres blagues qui viennent de là, et qui sont maintenant siglées extrême droite, et qui sont du coup, il y a un cercle, il y a un truc de production, ça vient des blagues qui viennent de ce forum-là. Ensuite, ça devient des blagues qu'ils utilisent ailleurs, pour signifier leur appartenance à ce forum-là. Là on ne parle pas de militants professionnels, hein, on parle de gens chez eux qui ont un mauvais esprit, qui aiment l'ironie, voilà, qui aiment ironiser sur le pouvoir, bien sûr, et ironiser sur le politiquement correct, hein, ça c'est leur truc, et en disant les choses qu'il ne faut pas dire, quoi, sur les Arabes, les Juifs, eux ils peuvent y aller, donc c'est bien. Et du coup, ils utilisent leur nouveau mème qu'ils ont créé entre eux pour se reconnaître, et puis sur d'autres endroits, ça déborde aussi du forum. Et ensuite, troisième étape, il y a des vidéastes sur YouTube marqués extrême droite aussi, qui font des vidéos. Alors, toujours les sujets, c'est pareil, hein, c'est contre les féministes, contre les migrants, contre les gauchistes, parce qu'évidemment, il y a un anticommunisme et un anti-intellectualisme qui est très très important, et qui, eux, réutilisent. Ces vidéastes-là réutilisent les mêmes qui proviennent de ce vieux forum parce qu'ils savent que ça va leur... Et même des gens qui arriveraient pas très connus, qui arrivent, c'est leur première vidéo ou leur deuxième, s'ils ne sont pas très connus, c'est une bonne chose pour eux de réutiliser ces codes parce que du coup, ils se trouvent identifiables, identifiés par un forum qui va se dire « Ah, il est des nôtres !» Donc il y a une espèce de truc, mais qui a débordé complètement ce forum. Ce forum, en France, c'est vraiment devenu quelque chose. Il a été au cœur d'affaires judiciaires récemment, suite au harcèlement d'une femme qui faisait une chronique sur Europe 1. Celle-ci ne s'est pas laissée faire, elle a porté plainte, et on a réussi à retrouver des auteurs de messages qui appelaient à la violer, à la tuer, et qui venaient de ce forum. Et donc... Ils sont passés, du coup, on a pu voir un peu quel était le profil de ces gens. Et les trois qui sont passés, qui se sont fait choper, c'est-à-dire, il y en a un, il a posté un message, le lendemain, il y avait la police qui tape à la porte, quoi. Donc, je pense que c'est assez impressionnant, je pense que c'est très bien que ça soit passé comme ça, ça a envoyé un message, ça a envoyé le « arrêtez de faire n'importe quoi », vous voyez, c'est sérieux, ce que vous faites, c'est vous êtes passible de... Et il y en a un qui a fait un peu de prison ferme, parce que vraiment, il y avait un appel au meurtre, machin, et en plus, il a montré très peu de remords lors du procès. Mais alors, le profil, c'était des mecs qui avaient 30, 32 ans, entre 25, 35, un truc comme ça, esselé, mal intégré sur le marché de l'emploi, célibataire, vivant chez leurs parents, un peu dépressif. C'était ça un petit peu le profil de ces gens qui se retrouvaient dans cette, qui trouvaient un exutoire dans cette haine des femmes, dans cette haine des féministes, et puis des migrants, voilà, toujours les mêmes trucs, et qui avaient harcelé, qui étaient allés jusqu'à harceler cette chroniqueuse sur Europe 1. Je vais peut-être m'arrêter là, je suis un peu long, mais du coup on a pu voir un peu ce que c'était que ce profil, et ils n'étaient pas militants nulle part, ils n'avaient pas de carte de membre de Front National ou de quoi que ce soit. Mais voilà comment, finalement, les militants organisés arrive à utiliser une colère, un désespoir, une tristesse, une dépression aussi chez des gens, voilà, pas bien, en stimulant justement tous ces côtés haineux, ce qu'on dit, les messages de haine, ça a l'air facile de dire « oui, l'extrême droite, c'est la haine », mais c'est un moteur puissant. Bon, bref, on va s'arrêter là, il y a d'autres questions. Quelques exemples aussi, pour rebondir sur notamment cette idée d'ironie de second degré, c'est juste de l'humour, très 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 utilisé, très très pratique. Il y a eu des... parce que l'idée c'était de... En fait, il y a une vexation de leur part, c'est que pendant longtemps, la gauche était cool. Chez nous, il y avait l'esprit Canal, qu'on appelait ça. Canal Plus, c'était une chaîne qui s'est lancée dans les années 80, sous l'impulsion d'ailleurs grâce à François Mitterrand. Et qui était une chaîne dans laquelle régnait un esprit un petit peu héritier de 68, il y avait de la provocation, il y avait du sexe, il y avait de la blague, et c'était la chaîne du cool, quoi. C'était la chaîne qui était première sur le Festival de Cannes, la chaîne un peu de la culture, du cool, de la tendance et de l'humour. Et ils ont eu des boules, ils ont eu l'impression que pendant des années, dans les médias dominants, la gauche avait eu le rôle de faire de l'ironie, surtout, machin. Donc eux, ils ont complètement récupéré ça en disant maintenant la gauche, elle est politiquement correcte, elle veut plus rigoler de rien. Regardez avec ces social justice warriors, on ne peut plus rire comme on riait avant, c'était bon enfant, des femmes, des homosexuels, des noirs, des arabes, on pouvait avant, c'était bien. Mais nous, on va continuer à le faire. On va continuer à avoir cette ironie, et d'ailleurs, cette ironie-là, elle n'existe plus que chez nous. Il n'y a que nous qui osons braver le politiquement correct, les interdits. Chez nous, on pense à Raptor Dissident, voilà, qui a fait des centaines de milliers de vues avec ses vidéos sur, comme je vous le disais tout à l'heure, les femmes, les féministes, les migrants, le machin, les gauchistes aussi. Enfin, on rigole des gauchistes, ça c'est pratique. Et quand on lui disait, mais c'est super politique, enfin, t'es un gros facho en fait. Et il disait pas du tout, c'est de l'humour. Et en fait, je fais ça pour précisément. Parce qu'on ne peut plus rien dire, donc moi je transgresse, donc moi je suis, moi j'ose ce que les autres n'osent pas, mais c'est juste au nom de la transgression. C'est juste de l'humour, et c'est drôle parce que c'est interdit. Et beaucoup de gens qui regardaient Raptor Dissident, des jeunes notamment, qui regardaient en disant ça me fait rire. On m'a défendu il n'y a pas longtemps, non mais franchement Raptor Dissident, je regarde ça vraiment pour rigoler, je sais bien que bon... c'est de l'humour, quoi, faut pas le prendre comme ça. Du coup, il regardait des vidéos de fachos, vraiment. C'était de l'humour facho, alors c'était bien monté, très rapide, très énergique. Et il y a une espèce de déni quand on leur dit mais c'est de la propagande de fachos, ça, c'est des trucs, regarde les thèmes, regarde ce qu'il dit. Ouais, mais ça me fait marrer. Et il y a une autre affaire qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Marceau, un dessinateur de bande dessinée, publié aux éditions Ring, un vieux réseau d'extrême droite. Un dessinateur de bande dessinée. Alors évidemment, on rit toujours des mêmes choses, hein. Les femmes, les migrants, les gauchistes, voilà. Et pendant longtemps, il y a des gens qui ont partagé. Il dessine bien, cet enfoiré. Il dessine très bien. Donc pendant longtemps, il y a des gens qui ont partagé ses planches en disant « Ah, c'est punk, quoi, c'est marrant. » En gros, c'est toujours un peu le même gag. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient dire un truc de gauche, et là, il y a un espèce de gros personnage qui arrive, qui lui met un gros coup de poing, et qui fait « Ta gueule !» Voilà. Et, toujours un peu le même gag. Mais pareil, il disait non, c'est pas politique, c'est pour rigoler, quoi. Et puis il y a pas longtemps, Marceau, il a fait un post sur Facebook, un post qui était très très inspiré. Il disait si on met de côté les crimes du régime hitlérien, déjà là, ça commence mal. Déjà très mauvais début de phrase. Commencez jamais une phrase comme ça dans un dîner. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça chez vous. Donc lui, il commence ça. Et là, il disait en tant qu'artiste, je trouve que l'art du Troisième Reich voilà, il y avait quelque chose d'imposant, de viril, de... Ça, c'était de l'art, c'était pas comme mettre un plug anal place Vendôme. Alors ça a énormément utilisé cette histoire de plug anal, qui n'était pas un plug anal, hein, qui était un truc qui ressemblait un petit peu, mais qui était censé être un grand sapin de Noël. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, là. Place Vendôme, c'est vraiment une place du luxe en France. Et il y avait une installation d'un artiste qui a été installé. Et l'artiste était peut-être un peu blagueur, il avait fait un sapin de Noël, mais c'est vrai que ça ressemblait un peu à un plug anal, mais... Je veux dire, pendant, le truc n'a été installé que 4 jours, hein. Mais pendant 4 jours, tout le monde avait une interprétation assez variée. D'ailleurs, je suis sûr, il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un plug anal. Donc, il y a des gens qui pouvaient regarder ça et ne pas voir un plug anal. Mais l'extrême droite a beaucoup, beaucoup utilisé ce truc-là et continue de l'utiliser, alors que c'était il y a 3 ans et ça a duré 4 jours. Mais pour dire, l'art est en train de dégénérer. Voilà, donc là, c'était ça. Toujours cette histoire de « on dégénère hein, » chez l'extrême droite. Donc, et donc, il a fait tout un truc. Et ensuite, il y avait un dessin, donc une fois après avoir fait l'éloge de la virilité de l'art hitlérien, il y avait un dessin de Charles de Gaulle qui lisait le poste, et il y avait Adolf Hitler derrière, dans le dessin, et il lui dit « Je crois qu'on n'aurait pas dû te battre en 45. » Et il y a des gens, donc là, il devenait un peu évident pour tout le monde, mais regardez, c'est un facho. C'est évident maintenant, enfin, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, le mec te fait un éloge... De l'art du Troisième Reich, machin. Et bon, alors là, ça a été beaucoup plus dur. Il y avait une exposition qui était prévue dans une galerie à Paris, elle a été annulée. Il y a eu des articles dans la presse, voilà. Voilà, ça devenait beaucoup plus dur. Et moi, ce que ça m'a inspiré comme phrase, c'est mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils disent littéralement je suis nazi pour qu'on croie qu'ils sont nazis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que le déni va très très loin. Il faut vraiment qu'ils disent oui, Hitler, c'était pas si mal. Pour qu'on commence à se dire, ben on vous avait dit, ça fait 3 ans qu'on vous dit que c'est un gros facho. Ouais, mais je sais, ouais, quand même, là, c'est chaud. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et en fait, ils ont réussi à repousser les limites de ce qui peut être dit sans être directement rangé dans une catégorie politique définie, qui est le fascisme. Hein. Quand on dit facho, c'est pas gratuit, ça renvoie à des catégories politiques de classement, voilà. Bon, on va s'arrêter là, mais nous, on a... Voilà. Ah oui, ici, un dernier truc. Les réseaux ont tendance à amplifier, on parlait de medium et de message, la structure même des réseaux fait que très souvent, le plus outrancier et le plus scandaleux tourne beaucoup plus que les propos modérés, etc. Donc, la structure même va faire que, dans les années à venir, et c'est déjà le cas, ces réseaux d'extrême droite poussent vers l'extrême droite, qui aurait eu tendance à vouloir, pour gagner des élections, se normaliser, rentrer dans le jeu, être un peu plus correct, et eux la poussent comme ils le peuvent, ils la tirent. Le Raptor dissident dont je vous ai parlé un peu plus tôt a fait une vidéo sur Marine Le Pen en disant « Marine Le Pen n'est pas une vraie nationaliste, c'est une gauchiste. Regardez, elle a un programme un peu social, elle n'est pas aussi violente qu'elle pourrait l'être sur les immigrés, machin. Son père, ça, c'était quelque chose. » Bon. Donc, ils vont tirer comme ils le peuvent aussi. Et ça, c'est dangereux, parce que plus c'est outrancier, plus ça tourne. Et plus ça tourne, plus ils vont avoir tendance à être outranciers pour que ça tourne. Donc, et à tirer, du coup, tout le... Enfin, bon, bref, je vais m'arrêter là, mais il y a une dynamique qui est assez dangereuse.
Dankjewel. U was inderdaad zeer herkenbaar hoe nieuw rechts te vinden is op sociale media.
Quand je faisais des vidéos de gaming, c'est venu au fur et à mesure, au bout d'un an, parce que c'est mon humour aussi, et moi c'est ce qui me fait rire, et voilà, en effet, j'ai des règles en matière de blagues, on ne rit pas des faibles, on ne rit pas des petits, on essaie de rire des grands, on essaie de rire contre la domination, etc. Mais à la limite, ça m'est venu normalement, et ça a eu un certain écho. Et après, j'ai vu, donc c'était bien reçu, il y en avait qui disaient parfois, c'est là où on voit que l'humour, c'est quand même assez puissant, il y en avait qui disaient parfois, bon, je suis pas de gauche, mais Usul, bon, ça me fait quand même un peu marrer. Donc, c'est là où on voit que, voilà, ça, c'est pratique. On peut le faire aussi, hein, faire de l'humour, faire de l'ironie, pour masquer le fait qu'en effet, derrière, on a une idéologie, de choisir de prendre envie, c'est très politique. Et ensuite, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je sais monter des vidéos, je sais faire des trucs... compliqué là, avec le logiciel de montage, tout ça, donc allons-y. D'autant plus que chez nous, il y avait les vidéos de Alain Soral qui marchaient du feu de Dieu, que les jeunes regardaient beaucoup pour avoir l'impression de comprendre le monde. Et du coup, je me suis dit, bon, on va leur donner d'autres clés de compréhension. Et j'ai fait des vidéos assez longues, parce qu'il fallait revenir sur beaucoup de bêtises, beaucoup de la merde qu'il y avait dans la tête des gens, et expliquer, alors oui, moi, mes références, c'est Bourdieu, c'est Marx, j'utilise de la sociologie, j'utilise un peu toutes les sciences humaines en général, et évidemment, j'ai une grosse culture de gauche, donc ça revenait à chaque fois, et j'essayais de dire, en fait, il vous manque des repères, dans l'histoire intellectuelle même, il vous manque des repères, vous savez pas ce que c'est, vous dites société, vous savez pas ce que c'est que la société, etc. Donc j'aurais parlé de Max Weber, j'aurais parlé plein de trucs, et ça a eu un gros succès parce que c'était des discours qui n'étaient plus audibles, qui n'étaient plus entendus, et qui étaient un peu plus complexes. Et je pense que les gens ne sont pas nécessairement rebutés par la complexité. En tout cas, j'ai fait ce pari-là. Et de dire contre les simplismes, contre les trucs bêtes, optons pour le... complexifions l'affaire et montrons qu'on est plus sérieux que ces gens. Que quand on réfléchit vraiment, on peut déconstruire les problèmes de manière plus fine qu'ils ne le font en mettant toujours derrière un vaste complot, en ayant des termes super vagues, c'est les médias. Alors du coup, j'ai fait une vidéo de 55 minutes pour expliquer tout ce qu'on pouvait reprocher en effet aux médias, utiliser un peu la sociologie pour comprendre pourquoi les journalistes s'intéressaient plus à ça qu'à ça, etc. Être un peu plus fin que les médias sont dans la main des gauchistes, machin, ce que dit l'extrême droite. Et c'est plus compliqué que ça. Donc, arriver toujours, moi, ma stratégie, ça a toujours été de dire « c'est plus compliqué que ça, mais je vais vous expliquer, d'ailleurs, vous allez comprendre. » C'est pas « c'est plus compliqué que ça, et moi, je sais, et vous êtes des cons », mais vous allez voir, c'est très simple, en fait. C'est plus compliqué, mais c'est simple. Donc, voilà, moi, ça a été ce que j'ai fait, puis ensuite, voilà, j'ai bossé pour Mediapart. Maintenant, je fais des vidéos courtes, parce que je me suis dit « il faut être présent toutes les semaines ». En fait, voilà, stratégie d'occupation. Avant, je faisais une grosse vidéo tous les 3 mois, j'ai fait ça pendant un certain temps. Et là, quand Macron est arrivé au pouvoir, mais l'extrême droite n'était plus ma priorité, parce que j'avais fait ma part dans le domaine, et en plus, je m'en mange quand même beaucoup dans la gueule. Je suis celui qui préfère détester en France. Alors, j'ai le droit à toutes les insultes type de l'extrême droite, usule, gros keuk, les insultes sur la virilité, etc. Donc c'est plus ma priorité. Là, je me dis surtout, il y a Macron. Donc il y a du boulot aussi, il y a toutes les, voilà, soyons présents toutes les semaines. Mais je pense que la vraie question, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pourquoi d'autres l'ont pas fait. Je pense que ça, c'est une vraie question. Et je pense que le pouvoir d'intimidation dont on parlait tout à l'heure de l'extrême droite a eu un rôle très important pour décourager les gens de faire ce que je fais. Et quand je dis que je m'en prends beaucoup dans la gueule, les autres le voient. Les autres n'ont pas envie qu'Internet les traite comme Internet me traite. Alors c'est pas Internet, hein, mais c'est y a beaucoup de femmes qui, a priori, auraient envie de faire des vidéos ou de nous rejoindre, voilà, sur YouTube pour faire des choses, proposer des idées, même des blagues, etc. Et qui se retiennent parce que... non, mais attends, c'est chaud Internet, quoi. Internet est devenu, voilà, un espace de guerre dans lequel, finalement, c'est pas qu'ils sont plus nombreux, c'est qu'ils sont plus violents. Et on n'a pas tous envie d'encaisser cette violence. Le harcèlement en ligne, c'est pas un petit truc. Faut vous imaginer ce que c'est que le harcèlement en ligne. Moi, si j'ai un téléphone... Là, j'ai un téléphone... Attendez, je vous le sors. Ouais, j'ai un téléphone de merde qui n'a pas Internet. C'est fait exprès. C'est-à-dire que je sais que... Vous imaginez, quand vous avez une campagne de harcèlement en ligne contre vous, il y a tout qui sonne en permanence. Twitter vibre en permanence. Facebook, vous ouvrez votre Facebook, même pour voir les messages de vos amis. Et il faut vous taper 3 mails que vous ouvrez pas, mais dont vous voyez le début. Vous voyez le début, espèce de sale fils de pute. Bon, ah non, alors attends, c'est pas ça. Toi, si on te trouve, on va te buter. Oh, non, c'est pas ça. Je voulais des nouvelles de ma mère, donc c'est pas ça du tout. Ta mère, on la baise. Ah oui, non, ça, c'est pas ça. Donc voilà, et c'est ça sur tous les réseaux. C'est ça sur Twitter, c'est ça dans la boîte mail, c'est ça sur... Et vous avez besoin de ces réseaux, surtout quand, comme moi, c'est votre boulot. Donc vous êtes obligé d'aller sur YouTube. Vous avez envie d'avoir un avis constructif sur votre travail, par exemple, quand vous produisez une vidéo. Vous avez envie de comme on parlait des journalistes tout à l'heure, qui regardent les commentaires sous leurs articles. Bah, nous, on regarde les commentaires sous nos vidéos. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la moitié des trucs, c'est des trucs de fachos. J'ai eu le malheur une fois de faire une vidéo sur les migrants, en allant rencontrer voilà, des gens qui venaient, qui avaient traversé la Méditerranée, qui étaient dans un centre voilà, pas loin à Lyon. Donc, j'étais allé les rencontrer, et j'ai leur donné la parole et tout, machin. C'était une super vidéo, j'étais très content. Mais alors les commentaires, impossible d'y foutre les pieds. Déjà, migrants, voilà, ils sont tous là, quoi. Non, même pas, c'était réfugiés, évidemment. Et ils étaient... Je ne pouvais plus voir les commentaires qui m'intéressaient, qui étaient ceux qui étaient constructifs, à cause de l'envahissement total. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de se lancer dans ce que je fais. Et ceux qui ont envie de se lancer dans ce que je fais, je leur dis bon courage. Je serai là, il n'y a pas de souci, bon courage. Et comme j'ai d'autres collègues qui, eux, font des vidéos de vulgarisation, d'histoire, de science, de je sais pas quoi. Donc vraiment mes camarades youtubeurs, la plupart sont de gauche. Et des fois, j'ai envie de les pousser au cul, leur dire « Vas-y, tu peux y aller, là. Tu pourrais dire « Assumer que t'es de gauche. Ah, c'est pas bon, on n'y va pas, parce que derrière, on va devenir un sujet de moquerie, un sujet récurrent. » Ce fameux forum, là, 1825 de jeuxvideo.com, je ne tape jamais mon nom dans la barre de recherche pour voir ne serait-ce que le titre des... Je peux pas. Donc voilà, je conçois que... Il y a l'affaire Marion Séclin chez nous, qui était une meuf qui a fait une vidéo sur le féminisme. Elle a été victime d'une campagne de harcèlement massive. Alors, c'est souvent les femmes, évidemment. Mais moi, je crois que c'est beaucoup moins violent ce que je me prends que si j'étais une femme, évidemment. Mais bon, voilà, la question, c'est pourquoi on le fait pas? Eh ben, il y a ça. Parce qu'ils sont forts. Et que nous, on ferait jamais ça. On ne ferait jamais des campagnes de harcèlement, machin, tout ça. Enfin, ça ne viendrait pas à l'idée d'envoyer des kilos de messages de haine dans les boîtes aux lettres des gens, ou les boîtes mail. Mais il y a pas longtemps, le dernier topic que j'ai vu, c'était « Je sais où Usul habite ». Je suis derrière lui là dans la rue et c'est bon, faut vivre avec ça, quoi. Surtout qu'à Lyon, on a une extrême droite là où j'habite assez forte, les identitaires. Ils tiennent une salle de boxe d'ailleurs. Et il y a carrément un quartier dans Lyon dans lequel je vais pas, qui est le leur, le vieux Lyon, j'y fous pas les pieds. Donc faut accepter de vivre comme ça aussi. Alors, bah déjà, on va regarder la dernière campagne qui a été réussi en France sur le numérique, c'était Mélenchon. Comment il a fait ? Je vais redire un truc que je disais aussi hier à Raoul. Si vous voulez être fort en ligne, il faut laisser faire les gens. C'est-à-dire, prenez pas des gens qui sont forts en com pour leur dire quoi faire, qui relayent le message du parti, machin. Non, il faut lâcher la bride à des créatifs, les laisser s'organiser comme ils veulent. Et ça a été la grosse intelligence de la campagne de Mélenchon. Ils ont utilisé Discord, cette application qui est le nouveau Skype, si vous voulez, mais un peu plus gaming. Et ils ont utilisé Discord pour parler entre eux. Donc on peut parler comme sur un forum avec un grand chat, avec plusieurs chambres pour le chat, machin. Et en plus, on peut parler en audio. Alors évidemment, on peut partager des liens, c'est tout faire, c'est vachement bien. Et ils ont laissé faire le Discord. Ils ont dit, voilà, il y a un Discord, vous pouvez y aller. Ils n'ont pas dit ce que Mélenchon... Mais en fait, le Discord s'est créé sans la France Insoumise. C'est là où c'est intéressant. Le Discord s'est créé sans la France Insoumise. La France Insoumise, après, a quand même créé, a essayé de faire des liens avec le Discord. Parce qu'il s'appelait le Discord France Insoumise. Donc, ils ont fait des liens, ça a marché, il y a eu des discussions. Mais il y a eu des discussions sur le fait qu'ils devaient quand même rester libres. Et ils ont proposé des choses assez nouvelles, assez intelligentes, même des outils. Ça, c'est toujours le mieux. Hein. Le mieux, c'est de proposer des outils. Et d'après, laisser les gens utiliser les outils. Un outil comme, le Mélenphone. Alors ça, j'ai trouvé ça assez fou. Tu pouvais prendre ton casque, ton micro-casque, tu te connectais au logiciel le Mélenphone, et tu appelais des gens. Il y avait tu faisais du télémarketing, en fait. Mais depuis chez toi, de manière décentralisée, volontaire, ils ont juste mis l'outil à disposition. Vous le faites pas, faites ce que vous voulez. Il y a eu le jeu vidéo, voilà, ils ont fait un jeu vidéo. Mélenchon a eu l'intelligence aussi d'aller sur les réseaux sociaux et faire des vidéos. Mais il l'a pas fait, J'ai regardé, moi, parce qu'à ce moment-là, avec Mediapart, j'étais payé pour faire l'ère de la campagne et je devais parler de la manière dont les candidats faisaient campagne. Et il y a plein d'autres candidats qui ont fait des vidéos. Il faisait une vidéo de 3 minutes en disant « Votez pour moi parce que, franchement, mon programme tient en 3 étapes. D'abord, redresser la France. Nul. Nul. Faites jamais ça. C'est vraiment nul. » Tous les autres ont fait ça. Hein. Benoît Hamon y compris, qui est de gauche, qui est jeune. On pourrait s'imaginer qu'il est entouré de jeunes, mais il a fait des trucs un peu nuls aussi, comme ça. Et personne... Moi, je regardais. Hein, je regardais le nombre de clics, de vues. Tout le monde s'en fout. Ça faisait 50 vues, 100 vues pour des candidats nationaux. En France, les vidéos, Fillon en avait fait, c'était 400 vues. Ça veut dire que même les gens qui vont voter Fillon, ils n'ont pas envie de regarder ça, ils n'ont pas partagé ça, c'est nul. Et Mélenchon s'y était pris des mois avant. Et il n'a pas fait des petites vidéos nulles, machin. Il n'a pas fait ce que d'autres candidats aussi ont fait, qui consistait à donner de l'argent à une boîte de com pour qu'elle leur fasse des petites vidéos, qu'ils réfléchissent à des capsules, machin, une boîte de com. Non, Mélenchon, il a dit, c'est pas comme ça qu'on fait sur Internet. Je crois que j'ai à peu près compris, on va y aller. Il était aidé, il était secondé par quelques jeunes qui, eux, venaient d'Internet. Alors vraiment, voilà. Et donc, il a fait des vidéos comme un YouTuber, vraiment. Et toutes les semaines, il se posait, alors je sais que votre Peter, maintenant, il va faire ça aussi. Il se posait... et il disait, il parlait vrai, quoi. Il s'est décoincé. Alors je pense qu'on lui disait, décoince-toi, parle-leur comme si c'était un ami et que t'es chez toi. Et puis il y avait une régularité, et puis les vidéos faisaient 20 minutes, c'était bien, c'était un bon format, c'était bien trouvé. Donc, Mélenchon a tenté plein de trucs. Résultat, un tiers des votants chez les jeunes a voté Mélenchon. Résultat, sur les réseaux sociaux, tout le bruit qu'ils généraient avec leur campagne, parce que c'était très actif, hein, c'était en beaucoup d'étapes, il y avait un plan de... Enfin, il y avait toujours une nouvelle idée qui sortait, il y avait toujours un nouveau truc, chaque semaine, ou presque, et tout le bruit qu'ils ont généré a couvert le bruit d'extrême droite aussi. Ça devenait plus intéressant. Et les trucs d'extrême droite, c'est toujours pareil, machin. Eux avaient trouvé une autre façon de s'adresser aux gens, mais une autre façon de faire participer les gens. Il faut que les gens puissent participer. Mélenchon, il a fait une FAQ, Frequently Asked Questions. une foire aux questions, dit-on en français. Il y a une FAQ où il répondait aux gens qui laissaient des commentaires YouTube, il lisait leur pseudonyme, très mal, il disait « qu'est-ce que c'est que ça, là ?» C'est un peu... il restait Mélenchon, quoi, il était un peu grognon des fois. Mais bon, je vais vous expliquer les gens, mais vu que lui, il adore, il est pédagogue, il adore expliquer aux gens, je vous explique les gens, là, il n'y a que nous deux, en gros, il est là, je peux parler là sans les médias, enfin, il y avait tout un truc aussi un peu anti-système, hein. Je suis là, et c'est anti-système, même le fait que je sois là, c'est anti-système, et ça vous montre que ça va se passer différemment avec moi. Donc, pas hésiter à, en effet, lâcher la bride, laisser faire les gens qui savent, ça fait un peu discours sur les compétences, machin, mais laisser faire les jeunes. Je pense qu'un des gros problèmes aussi des autres organisations politiques, c'est qu'ils n'ont pas laissé faire les jeunes, ou alors, pas les bons jeunes. Par exemple, Macron, sa communication en ligne, c'était pipi, c'était nul, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment, enfin, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas intéressant. Et d'ailleurs, ça n'a pas tourné. Parce que lui, il a laissé faire des jeunes, on va dire pourtant Macron, il est jeune, il doit être entouré de jeunes. Mais non, il a laissé faire des jeunes sortis d'écoles de commerce ou d'écoles de com. Alors eux, ils vont faire comme on leur a appris à faire à l'école. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut laisser des jeunes qui vont faire comme ils ont appris à faire sur Internet, comme ils font déjà. Pour autre chose, peut-être, comme moi, je faisais déjà pour le jeu vidéo, et je me suis dit, je vais mettre ces compétences et savoir-faire au service de la politique. Mais il faut aller trouver des gens qui font et leur dire, tu veux pas faire... organisez-vous, faites, on vous laisse faire, et même on vous cautionne. À partir du moment où il y avait un échange qui était intéressant, c'était le Discord faisait des choses, sans demander à Mélenchon, et une fois qu'il avait fait quelque chose, il le disait, bah regardez, on a fait ça. Et Mélenchon récupérait le truc, par exemple le jeu vidéo, Fiscal Combat, il récupérait le jeu vidéo, et il disait, bah regardez, ils ont fait ça. C'est bien, bah partagez-le, c'est sympa. Donc comme ça, le Discord se sentait récompensé par le candidat, mais il n'avait pas pris d'ordre, et il n'avait pas envie de prendre d'ordre. Voilà. Parce que les jeunes, ils sont comme ça, ils n'ont pas envie de faire ce qu'on leur dit, machin, bon... voilà, ça c'est une piste, en effet, faire en sorte de créer des espaces, créer des outils, créer des moyens pour que les gens puissent intervenir, parce que c'est comme ça qu'ils font en face, ils font ça en face. Voilà, et puis l'ironie, oui, toujours hein, l'ironie, important, on y revient, mais toujours l'ironie. Et ironiser sur les fachos, ça c'est bien ça, je pense qu'il faut pas hésiter, hein, sur leurs problèmes de virilité, là, machin, là. Je pense qu'il faut y aller, hein. Ça, c'est... parce que c'est eux qui ont un problème de virilité, là, c'est... ça les obsède, voilà. Sur leur peur des femmes, je pense qu'il faut ironiser sur des trucs comme ça, sur des trucs où t'as pas... Après, t'as moins envie de te montrer facho parce qu'il y a des blagues qui circulent sur les fachos et t'as pas envie d'être sujet à ces blagues-là. Je pense qu'il faut... Faut plus se contenter de l'insulte facho parce que ça ne dit plus rien. Ça n'est plus une insulte, ça n'est plus infâme. Donc il faut aller piquer ailleurs. Mais il faut les piquer, faut y aller.
Débats. Je suis italien et je suis convaincu que c'est l'Italie, la gauche presque disparue. C'est aussi parce qu'on a raté la possibilité d'avoir ces gens de débats avant que ce soit trop tard. Et ma question, est-ce que vous croyez que les hackers peuvent nous aider? Si oui, comment? Merci.
Oui, comment? Je ne sais pas. Alors chez nous, par exemple, le truc des hackers, c'est bien, c'est parce qu'ils se posent beaucoup de questions, donc ça c'est pas mal. Chez nous, ils ont monté une chaîne YouTube, la communauté des hackers, enfin une des communautés de hackers, a monté une chaîne YouTube parce qu'ils s'intéressent aux questions aux trucs un peu interdits, un peu cachés, la défense, l'armement, la politique, la finance, le bitcoin, ça les intéresse à fond, et quand on parle de bitcoin, on arrive assez vite, en effet, à la finance, au trading, au micro-trading, à tous ces trucs-là. Et donc à Wall Street, au pouvoir américain, et puis les ambassades, et puis les machins, ils ont une espèce de vision comme ça, ils aiment bien penser, parce que ils aiment bien penser le monde comme un système, et ils essaient de comprendre le système. Et donc chez nous, ils ont fait par exemple une chaîne YouTube qui est composée uniquement d'interviews, qui s'appelle Thinkerview, que je vous conseille, qui est intéressante, hein, ça dépend des invités, ça dépend des... Mais bon, ils ratissent d'ailleurs assez large, et ça marche bien. C'est-à-dire, ils vont inviter, y compris des gens de droite, et des gens de gauche, mais leur but c'est toujours de comprendre, quoi, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et ce qui est caché. Donc, et puis après, en effet, comme ça a été dit tout à l'heure, on dépend beaucoup de gens qui ont envie de faire un travail militant. Alors quand on est informaticien ou quand on est hacker, un travail militant, évidemment, moi ça m'intéresse pas que les informaticiens ils aillent tracter. Hein, c'est nul, c'est une sous-utilisation de leurs compétences. Le même temps qu'ils pourraient passer à militer, en effet, de toute façon, le militantisme, c'est toujours du travail gratuit. Donc, que ce soit programmé ou coller des affiches, diffé devant les usines ou je sais pas quoi, tout ça, c'est du travail. Là, aujourd'hui, vous êtes studieux, vous êtes presque en train de travailler, il y en a qui prennent des notes, etc. Moi, je suis en train de travailler aussi, on est en train de travailler, là. Donc, le militantisme repose sur du travail gratuit. Il s'agit d'organiser ce travail gratuit, cette masse, c'est exactement ce qui a été dit plus tôt. Cette énergie, elle est disponible, il faut juste qu'elle soit organisée, canalisée, stimulée, et qu'on dise, regardez, c'est possible. Alors évidemment, les hackers se posent juste la question finale de la légalité avec eux. Jusqu'où on peut aller, quoi. Et alors ça, je ne peux pas répondre à cette question, mais évidemment, ils sont mobilisables. Je sais par contre jusqu'où il faut aller. Là, on arrive sur un débat moral, éthique. Là, je ne sais pas. Je n'en sais rien.
Il ne faut pas nécessairement être d'extrême droite pour être intimidé par des groupuscules ou des groupes de gauche. Par exemple, vous prenez Chouard, c'est un penseur, il est doux comme un agneau, mais il a été interdit de nuit debout, notamment par des groupes antifas.
Doux comme un agneau, il a des accointances avec l'extrême droite, c'est chelou quoi.
Qui ?
Chouard.
Oui, mais il ne fait que dire des choses, c'est ça qui m'intéresse.
Il ne fait que dire des choses.
Quand on dit des choses, pour moi, on ne doit pas être intimidé, on ne doit pas recevoir de menaces. De la même manière, vous ne devez pas en recevoir.
Tu fais une critique des antifas, en fait.
Je pense que cette violence n'est pas exclusivement réservée à la droite.
Oui, parce qu'il y a le groupe des antifas qui ont dit on en a assez de se marcher sur les pieds. Tu sais comment sont nés les antifas, hein. C'est à l'époque où on tapait sur le. Et où on tuait des Arabes dans les années 80-70 en France. Il y en a qui se sont mobilisés et qui ont dit ça suffit, parce qu'on sait qui tue les Arabes, qui sait qui jette des Arabes dans la Seine, etc. C'est les fachos, donc les fachos, ils comprennent qu'une chose, c'est la violence. Donc il va falloir qu'on monte une petite équipe, on prend une camionnette et puis on va les calmer un peu. Et ils ont nettoyé comme ça Paris, les fachos ils se sont tenus tranquilles pendant 15 ans derrière. Donc à un moment, ça vient de cette culture-là. C'est pas la culture de « oui on pourrait dire ce qu'on veut, machin, oui on peut dire ce qu'on veut, d'accord, très bien ». Mais c'est la culture que la politique, c'est de la violence. In fine, la politique, c'est toujours de la violence. Et c'est la violence par d'autres moyens, mais c'est toujours de la violence. On parle de corps, on parle de pouvoir, on parle de violence. Donc, que les antifas existent, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Qu'il y ait des intimidations sur les gens d'extrême droite, je trouve aussi que c'est une très bonne chose. Et voilà. Donc, soutien total, je trouve ça normal. Donc, venir dire que la violence n'est pas l'apanage de... D'accord, nous on a un petit groupe, les antifas, on a un petit groupe de gens qui en effet a choisi cette manière de faire de la politique. Eux, c'est tout le monde. C'est une violence constante, permanente, une insulte, un machin, c'est leur langage, c'est leur manière de parler, c'est leur manière de penser. La violence, c'est le langage fasciste par excellence, et c'est présent partout. Alors, je veux dire qu'il y a une différence de nature dans la manière dont nous, qui sommes des gens raisonnables, nous parfois nous en venons à la violence, de la même manière que, bah oui, bah quand l'histoire le demande, on le fait. Pas de bon cœur, pas de gaieté de cœur, mais parfois il faut le faire. Donc il y a des gens qui chez nous sont prêts à le faire, chez eux c'est systématique. Pour eux l'histoire est violence, la politique est violence, et donc la violence est un état légitime, est un état permanent, et est un état souhaitable. L'homme, pour être un vrai homme, doit oser la violence, etc. Donc il y a une idéologie de la violence, c'est pas du tout la même chose. C'est qualitativement, ça n'est pas du tout pareil.
Dans tout ce que vous avez décliné là, il y avait beaucoup de réseaux sociaux qui étaient des réseaux sociaux classiques. Moi, j'ai deux enfants qui sont présents sur d'autres types de réseaux sociaux, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais c'est des jeux en ligne. Je voulais savoir si c'était considéré dans les méthodes de communication actuelles, si ça pouvait être aussi des lieux de militantisme, et si vous avez des exemples, je veux bien entendre que vous les citiez.
Bien sûr, c'est des. Moi, je considère que YouTube est un réseau social et que nécessairement les jeux en ligne sont des réseaux sociaux aussi. Donc, il s'y passe évidemment des choses. On a vu dans des univers virtuels se créer, par exemple, je crois que sur Second Life, il y avait un peu ça. Ça faisait campagne aussi avec des stands et des machins. Bon, c'est un peu mort maintenant, Second Life, et c'était un peu chelou comme jeu. Enfin, alors, et puis l'inverse est vrai aussi. On peut faire aussi du jeu vidéo militant. Il y a un groupe en Italie, je ne sais plus comment il s'appelle, qui justement est très très fort pour faire des jeux vidéo militants. Ils font des jeux vidéo sur les migrants, etc., ou sur des questions de société ou des questions politiques. Mais ce sont des espaces en effet à conquérir, mais c'est difficile parce que c'est vrai que quand tu vas jouer quoi. T'es un peu occupé. C'est des espèces de jeux entre le jeu et le réseau social qui nous intéressent peut-être un peu plus. Et puis après, on peut amorcer toute une réflexion sur le jeu vidéo. Il y a plein de choses à faire aussi dans le jeu vidéo, mais il y a plein de choses qui se font et qui ne sont pas connues ou qui ne sont pas relayées par les militants traditionnels parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être un vecteur très intéressant aussi pour nous. Donc ça reste ouvert. Je pense que c'est encore une question qui reste ouverte. Comment on y va? Alors, il y en a qui ont essayé. Même l'armée américaine a utilisé le jeu vidéo. Ils avaient leur propre jeu, ils faisaient jouer les gamins qui sortaient du lycée, machin, pour leur dire, et derrière, il y a le... En gros, même quand tu cliquais pour télécharger le jeu, 2-3 clics de plus, tu pouvais t'engager dans l'armée, quoi. C'était assez malin, c'était assez pensé comme ça. Donc oui, il faut qu'on trouve aussi des trucs malins comme ça, oui. Mais c'est pas évident.
Ok, ik denk dat we hier gaan moeten afronden. Heel erg bedankt aan de sprekers. Dat was een heel interessant gesprek. En ik denk dat
Thank you. Thank you.